La majorité de notre travail ici, c'est d'attendre. Si jamais le président veut parler, on doit être ici parce qu'ils nous préviennent 5 minutes avant et ils disent « Venez au deuxième étage, il va parler ». Parfois, on reçoit juste un message « Ramène-toi, il va parler ».
Des journalistes qui attendent devant le palais présidentiel que le chef de l'État veuille bien s'adresser à la presse et non aux 40 millions de Brésiliens qui le suivent en direct sur YouTube, Twitter et Instagram. 2022, dans quelques jours, le Brésil va basculer en année électorale. L'occasion pour l'instant même de dresser avec vous un bilan du règne de Jair Bolsonaro à l'aune de ses relations avec les médias. L'ambiguïté du traitement que lui ont réservé les télés, la fronde solidaire des grands titres de presse écrite, le bouclier tardif des GAFA face à une monstrueuse épidémie de fake news orchestrée par le pouvoir en place. Sachez qu'une commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la gestion du Covid a formulé 10 chefs d'accusation contre Jair Bolsonaro, dont crime contre l'humanité, et réclame à corps et à cri qu'on lui coupe le micro sur les réseaux sociaux.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Comment est-ce que j'entrais dans la TV? Un duro tesileso, non era pastor de igreja. Hein? Non era conhecido. Algum milionário, Deus mandou alguém e entrou, e aí o senhor entrou na televisão? Deixa eu te contar um pouquinho para você entender.
Vous entendez la voix d'un pasteur évangéliste, Silas Malafia, extrêmement influent. Il anime une émission de télé qui s'appelle La Victoire du Christ sur Rede TV. Bonjour Mélanie Toulouat.
Bonjour Sonia de Villers.
je faisais de gros efforts pour bien prononcer les noms les portugais, enfin les noms brésiliens, et voilà que j'écorche le vôtre. Alors, vous êtes docteur en histoire contemporaine à l'Université de Paris 3 et à l'Université de Sao Paulo. Vous êtes vice-présidente de l'Association pour la recherche sur le Brésil en Europe. Vous êtes actuellement basée à Madrid. Qu'est-ce que vous faites à Madrid?
Alors, je suis employée par la Casa de Velázquez qui se trouve à Madrid, mais je fais des recherches à Lisbonne et je travaille sur la caricature politique sous Salazar au Portugal et sous le régime militaire.
Et qu'est-ce que c'est que la maison de Velázquez?
C'est une école française des hautes études à l'étranger, donc c'est l'école des hautes études hispaniques et ibériques.
Alors j'aimerais qu'on dresse d'abord une sorte de tableau de l'audiovisuel. On va commencer par la télévision, ensuite la presse écrite, ensuite le numérique. J'aimerais qu'on dresse ensemble un tableau du paysage audiovisuel brésilien qui est concentré de manière absolument sidérante.
C'est vrai que la concentration médiatique, c'est une des caractéristiques majeures de ce panel, de ce tableau médiatique brésilien. C'est une concentration qui date de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a été extrêmement accélérée et amplifiée sous le régime militaire, donc de 64 à 85. Et en fait, ce tableau, donc, est fait en fait de grands empires médiatiques, de grands groupes.
Mais quand on dit de grands groupes, hein, ce sont des empires qui possèdent entre 30 et 50 chaînes de télé chacun.
Tout à fait. Et qui sont concentrés en fait entre les mains de très très peu de personnes, de très très peu de familles. C'est vraiment très très marquant. Et donc aujourd'hui, on a des groupes assez majoritaires comme la Record, comme la Globo.
Alors, un petit mot sur le Record TV, parce que Record TV, c'est un groupe évangéliste et j'aimerais qu'on dise un mot, parce que ça, c'est très peu connu en Europe.
Bon, en France, en fait, je pense que ça serait pas possible de toute façon d'avoir une situation telle que la Record. La Record n'a pas du tout une attitude ambiguë vis-à-vis de Bolsonaro, c'est plutôt très favorable. La Record est dirigée par Edir Macedo dont il est le propriétaire de la Record et c'est un fondamentaliste religieux. C'est très important de le signaler. C'est le fondateur de l'Église universelle du Royaume de Dieu, un partisan de Bolsonaro qui n'a eu de cesse de relativiser la pandémie, de répandre des recettes de prières, de jeûnes pour se protéger du Covid, etc., etc. Et c'est extrêmement écouté, extrêmement regardé.
Voilà. Et l'autre grand groupe, évidemment, c'est le Globo, propriétaire de presse et propriétaire de télévision et de radio. Écoutez le président brésilien traitant de merde une journaliste de TV Globo. Il lui dit « Vous faites du journalisme pourri qui ne sert à rien, vous détruisez la famille brésilienne, vous détruisez la religion. »
Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalha. Vocês não fazem jornalismo, canalha vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada.
Voilà, ça c'était au mois de juin dernier. Alors comment ça a évolué les relations entre le président brésilien et les grandes chaînes de télé?
La chaîne Globo, c'est vraiment très très symptomatique parce que Bolsonaro, c'est vrai, s'en prend de plus en plus aux journalistes de Globo. Il faut aussi reconnaître que Globo, les reporters de Globo sortent de plus en plus de reportages qui sont effectivement très critiques vis-à-vis de Bolsonaro.
Parce que c'était pas le cas au départ?
Non, justement, c'est ça. C'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une attitude ambiguë, puisque c'est fondamental de rappeler que ces médias qui aujourd'hui s'insurgent, aujourd'hui, en mars, avaient fait une espèce effectivement d'union sacrée autour d'une une pour lutter contre les fake news, etc. Ces médias ont largement contribué à l'ascension de Jair Bolsonaro, à la démonisation du Parti des Travailleurs, à la vague conservatrice depuis 2014, depuis 2016, et ils ne font aucune autocritique. Mmh. Jamais il en est question sur leur rôle dans l'élection de Bolsonaro, sur la mise en scène de son personnage, sur la création de ce climat propice en fait à l'ascension de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, effectivement, Bolsonaro s'en prend aux journalistes qui tapent sur la famille brésilienne, mais bon, sur sa famille à lui, en fait, surtout. Enfin, c'est assez intéressant qu'il parle de la famille brésilienne quand on connaît un petit peu les teneurs des reportages critiques envers sa propre famille. Il avait attaqué le journaliste de la Folha de São Paulo qui avait dénoncé fraudes.
Ça, c'est la presse écrite, on va l'entendre justement, mais juste un petit mot encore sur les télévisions et les radios, le service public.
Alors,
l'audiovisuel public.
C'est un des grands problèmes structurels aussi de ce scénario un petit peu général au Brésil, la communication publique brésilienne qui est extrêmement affaiblie, qui est démantelée en fait depuis des années par le Brésil. Mais là, avec Jair Bolsonaro, on a réellement des coupes budgétaires, on a des...
On parle de privatisation.
On parle de privatisation et on ne fait pas que en parler. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une destruction de la communication publique qui, en fait, dans la constitution brésilienne, c'est indiqué en fait que la communication publique n'est pas censée répondre à des intérêts financiers, doit proposer des contenus éducatifs, des contenus, etc. Et donc ça, évidemment, ça a subi des coupes, c'est en voie de privatisation.
Alors, on va écouter ensemble la voix de Patricia Campos Melo. Elle est journaliste au sein d'un très grand quotidien qui s'appelle La Folha de São Paulo. Vous voulez bien le prononcer bien parce que...
La Folha de São Paulo.
Voilà. Elle a sorti des infos décapantes sur le pouvoir. Il la déteste et évidemment, le pouvoir a orchestré une campagne haineuse contre
Tout
cette femme.
E eu cheguei a essa investigação que era que você tinha várias agências de marketing que estavam trabalhando fazendo disparos de mensagens em massa por WhatsApp, disparando tanto notícias falsas como propaganda. Era uma matéria mostrando que vários empresários estavam pagando por esses disparos.
Alors, Mélanie Duluat, avant de parler du cas de cette journaliste, on peut peut-être dresser un tableau. Quels sont la poignée des journaux les plus importants au Brésil? Parce que ce sont d'immenses tirages. Hein. La Folha de São Paulo, c'est 1,5 million d'exemplaires.
Oui, c'est sans commune mesure, en fait. Oui. C'est La Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, le journal Globo, qui a aussi son titre papier, Veja. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais les plus importants, ceux qui ont le plus de public, public lecteur et lectrice, et qui sont en fait enracinés aussi dans la culture politique au Brésil. Oui. C'est-à-dire qu'on les connaît, ils font un peu partie des meubles, faut dire ce qu'il y a, mais voilà, ce sont des très très grands titres qui ont effectivement des tirages qui sont
impressionnants, phénoménaux. Et alors, vu de l'extérieur, on a l'impression d'une union sacrée entre ces titres.
Alors ça, c'est pas vraiment... Là, assez récemment, effectivement, ces titres-là se sont unis autour notamment du combat contre les fake news pendant la pandémie. Là, vraiment, sur cette thématique-là, on a eu un espèce de sensation de « bon, là, c'est plus possible, on peut plus laisser passer
un
ça ».
Un front commun.
Voilà, notre rôle, c'est aussi d'arrêter de faire diffuser, d'autoriser la diffusion de fausses nouvelles. On est à 600 000 morts au Brésil. Enfin, c'est une situation qui est complètement catastrophique. Cela dit... Cette union sacrée, elle était, encore une fois, je me répète, elle était aussi, elle valait dans l'autre sens en 2018. Donc, c'est assez difficile d'identifier clairement, d'analyser les intentions, et les positions politiques, les postures idéologiques sont extrêmement différentes au sein de ces titres.
C'est ça.
C'est très très complexe en fait.
D'autant que chaque jeudi, le président de la République, installé dans son bureau et sans autre effet de mise en scène, hein, il faut bien qu'on décrit visuellement à quoi ressemblent ces lives. Il est en direct sur sa chaîne YouTube, retransmis également sur Facebook, et il s'adresse directement à la nation, mais comme une espèce de conversation entre vous et moi. La dernière fois que ça a complètement déraillé, il a fait un pont entre le vaccin contre le Covid et le sida.
No dia, dois dias depois, a revista Exame falou que eu falei fake news.
Voilà, on a retrouvé quelques secondes de cette vidéo qui a été supprimée partout, Mélanie.
Tout à fait. Alors ça, c'est bon, cette grand-messe là hebdomadaire où Bolsonaro utilise cette espèce de rhétorique de je m'adresse directement aux gens, il y a pas d'intermédiaire, etc., parce qu'il tape, il critique
dans
sur
un bureau mal rangé.
Voilà, c'est vraiment le président populaire, proche du peuple, etc. En fait, il a subi à juste titre une longue série de bannissements, de mise au banc de certains réseaux sociaux, etc., pour diffusion, propagation de fausses nouvelles. Alors là, il a été mis au banc de YouTube pendant une semaine en octobre, parce qu'effectivement, il associait la vaccination contre le Covid au déclenchement du sida. Il y a 3,5 millions d'abonnés en fait sur cette chaîne YouTube dans laquelle il s'exprime toutes les semaines. Il a été bloqué en juillet dernier. De très nombreuses vidéos sont supprimées sur YouTube à chaque fois qu'il exprime des choses aussi absurdes que ce qu'on a entendu en octobre. En mars 2020, c'était Twitter, et en fait, c'est mis au banc. Il crie à la censure.
Et écoutez comment une chaîne indépendante, de journalisme indépendant, qui analyse les processus de communication et les procédés de communication du clan Bolsonaro, explique comment, pour contourner ces bannissements et ce qu'il appelle lui des censures, parie sur d'autres messageries que son Telegram et WhatsApp.
Com 1 milhão de seguidores no Telegram, Bolsonaro abre larga vantagem em rede. Ok, larga vantagem, mas o que é que isso significa? O que é que isso diz sobre a eleição do ano que vem, no Congresso em Foco? No ano que vem, Bolsonaro deve nadar ali sendo o Telegram, de braçada, já que nenhum concorrente direto seu na eleição presidencial tem alcance similar. Lula tem 35,8.
Alors, WhatsApp, c'est une messagerie qui a été créée par Facebook, mais ça, ce sont des petits groupes, comme des groupes de copains, des groupes de cousins, des groupes de collègues de bureau. Il faut savoir que des groupes, il y a 130 millions d'utilisateurs au Brésil pour un pays de 100 millions d'habitants, donc c'est absolument...
C'est gigantesque,
la pénétration de WhatsApp, et que le clan Bolsonaro a très très bien utilisé des centaines de milliers de groupes de soutien.
Oui, alors, en 2018, il avait utilisé WhatsApp pendant sa campagne présidentielle et avait donc payé des envois massifs de fausses informations dans WhatsApp. Là, on entendait la voix de Álvaro Borba, qui est donc journaliste, qui a créé ce canal Meteor au Brésil, qui analyse en fait la politique, l'actualité brésilienne. Et il explique, c'est très très intéressant, cette nouvelle stratégie pour les fausses nouvelles, pour la campagne de 2022, puisque les élections ont lieu en octobre. En fait... dans ses vidéos hebdomadaires sur YouTube, Bolsonaro invite ses 3 millions d'abonnés à s'inscrire sur son canal Telegram, qui a à peu près 1 million d'abonnés sur son canal.
C'est une autre messagerie
qui fonctionne à peu près comme WhatsApp, dans l'utilisation, enfin pour les personnes qui l'utilisent, mais c'est crypté. Telegram, c'est beaucoup plus difficile à contrôler par les autorités, c'est beaucoup plus difficile à surveiller et donc à condamner. Et Telegram fait beaucoup moins de modération. Il n'y a pas de limitation dans les groupes. Ce ne sont pas des petits groupes.
Donc on balance ce qu'on veut.
Immense. Et alors, Bolsonaro, pour contourner les interdits de certaines vidéos sur YouTube, les met en cachet sur YouTube, mais dans son canal Telegram, qui a quand même 1 million d'abonnés, balance les liens de ses vidéos sur YouTube.
Et un million d'abonnés seulement pour l'instant.
Pour l'instant.
Moi, ce que je trouve quand même aussi, et c'est effarant quand on regarde comme ça ce paysage médiatique et le rythme affolant auquel se diffusent les fake news au Brésil, c'est qu'on se rend compte que le mandat présidentiel au Brésil, c'est seulement 4 ans. Donc, en réalité, c'est un pays qui rebascule sans cesse en période électorale.
Oui, c'est
donc en période de propagande et de conquête des esprits.
Tout à fait. C'est un mandat très très court de 4 années effectivement. On voit à quel point déjà 5 ans en France, ça nous semble passer extrêmement. Ouais. Enfin, ça dépend, mais ça semble passer quand même assez rapidement. Et effectivement, là, dans ce mandat-là, le premier mandat de Jair Bolsonaro, ça a été extrêmement accentué par l'état de pandémie en fait, qui a précipité énormément de choses, qui a aussi mis sous cloche énormément d'éléments de la vie politique brésilienne. Et donc là, il a pris ses fonctions en janvier 2019 et il est déjà en campagne.
C'est ça.
Ça fait longtemps qu'il est déjà en campagne.
C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un sursaut des journalistes indépendants au Brésil et aussi, au fond, ils peuvent s'emparer des médias numériques pour se faire entendre?
Eh bien, heureusement qu'ils s'en emparent d'ailleurs, puisqu'effectivement, si, les partis de gauche l'ont pas vraiment fait, mais c'est vrai qu'on voit une consommation extrêmement accrue de podcasts, de chaînes YouTube, donc une nouvelle manière de s'informer, en fait. Mmh. Et souvent, ces podcasts et ces chaînes YouTube sont faites, produites, construites par des journalistes qui ont eu qui travaillaient avant ou qui travaillent encore dans des médias plus classiques. On a le Foro de Teresina, Meteoro Brasil, donc on a entendu l'extrait, Xadrez Verbal. Et ces médias-là, en fait, s'emparent réellement des réseaux sociaux pour diffuser de l'information et combattre les fausses nouvelles. Et donc, touchent aussi un public plus jeune, qui a l'habitude
plus connecté. On va écouter l'extrait d'un de ces podcasts indépendants où on parle du variant Omicron.
José Roberto de Toledo, você que está dividido entre a política brasileira e o Omicron. Antes da gente começar o programa, o Toledo vinha me explicando por que Omicron e etc. Podemos começar falando sobre o nome dessa variante,
des podcasts
Fora de Teresina, exatamente.
C'est ça. Voilà. Est-ce que dans cette expérience populiste extrêmement virulente d'un point de vue médiatique et sur l'utilisation des réseaux et la diffusion des fausses nouvelles, est-ce que un candidat populiste comme Éric Zemmour en France, à votre avis, Mélanie Touloat, a pu inspiré des méthodes Bolsonaro?
Je pense, oui. Il y a beaucoup d'éléments de comparaison.
En quoi, par exemple?
Je pense qu'en termes de conviction politique, de sympathie, etc., là on a beaucoup de points communs. Mais il y a aussi plusieurs éléments de contexte qu'on peut comparer, toute proportion gardée, la pluralité médiatique étant plus importante en France. L'extrême droitisation de la société, la pénétration dans les grands médias de discours d'extrême droite, la normalisation du discours d'extrême droite qu'on observe en France quand on voit par exemple Sandrine Rousseau et Éric Zemmour mis au même sur un pied d'égalité. Et puis on est aussi dans un contexte en France où on a de nombreuses suspicions de subversion idéologique à l'école, comme on se rappelle de la une du Figaro, dans les universités, envers les sciences sociales, avec cette espèce d'invention de l'extrême droite, l'islamo-gauchisme, qui a été complètement réapproprié par nos ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur. En fait, un contexte aussi d'attaque généralisée du service public, parce qu'il faut bien comprendre que tous ces éléments-là, au Brésil, ont contribué à l'ascension de Jair Bolsonaro. Mm-hmm. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment arrêter de regarder Bolsonaro comme un phénomène un petit peu...
Un phénomène de foire.
Et puis lointain et exotique, qui s'arrêterait un peu à la frontière, comme le nuage de Tchernobyl, et en fait se rendre compte que... Il faut essayer en France d'apprendre très 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 vite de cette expérience brésilienne. Mmh. Parce que le côté monstre, non, c'est faux. Ça s'analyse, ça se comprend très bien et on peut comparer avec beaucoup d'éléments en fait qu'on observe en France actuellement.
Merci beaucoup Mélanie Touloat d'avoir fait un petit détour par la maison de la radio entre le Portugal, l'Espagne,
à Lisbonne,
et le Brésil. Merci d'être
venu
nous analyser un premier bilan de Jair Bolsonaro à l'aune de ses relations avec les médias. C'est la fin de l'émission.